où donc cette journée ensemble, une journée de recollection, donc de prière. C'est pour ça que c'est important que cette journée soit vécue le plus possible dans le silence, en dehors des moments fraternels prévus. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ce temps spirituel de prière, cette intimité avec Jésus. Le plus important, ce n'est pas les enseignements. Et donc, Marthe Robin insistait beaucoup sur l'importance du silence pendant les retraites. Je crois que c'est capital pour nous. Pamela Sara vient d'écrire un livre, gros d'ailleurs, qui s'appelle La force du silence contre la dictature du bruit. On est dans un monde de bruit et on ne sait plus très bien ce que c'est que le silence, qu'on voit ça, qu'on voit de manière négative, alors que le silence c'est positif, c'est lié à l'amour. Et si on veut vivre un peu profondément les choses, il faut les vivre dans le silence. Donc je vous invite à être très vigilant, surtout dans les moments entre les différentes activités, de ne pas commencer à parler. S'il y a un renseignement, je ne peux pas mettre des voix à part pour laisser les autres dans le silence. J'insiste beaucoup parce que le fruit de cette journée dépendra beaucoup de la qualité et de l'intensité de notre silence. Nous allons essayer de regarder ce matin le premier avant de Marie. Et cet après-midi, j'essaierai de regarder le dernier avant d'Élise. C'est important parce que ce temps de l'Avent, il faut regarder la Vierge Marie parce que c'est un temps marial. C'est elle qui a vécu de l'Avent et c'est elle qui a appris à Saint-Joseph à en vivre, Élisabeth d'une certaine manière. Et c'est un temps dont il faut vivre très proche de Marie. Et c'est un temps du désir. Pourquoi c'est un temps du désir? Parce que c'est le temps de l'espérance. Le mystère de l'Avent est très lié à l'espérance. À la fois la charité, c'est sûr, mais de manière très spéciale à l'espérance. Et le propre de l'espérance, c'est qu'elle met en nous des désirs divins. Et Marie a vécu d'un désir très particulier pendant ce temps de l'Avent. Et c'est l'espérance qui domine dans le cœur de Marie. L'espérance du salut qui se réalise en elle à travers l'incarnation et l'espérance d'une grâce donnée avec une profondeur unique. Et ce temps de l'Avent est un temps où il y a en Marie une présence cachée, silencieuse de l'enfant Jésus qui l'éduque. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le mystère de l'incarnation? Le mystère de l'incarnation ne change pas le mystère de Dieu, mais le mystère de l'incarnation change la présence de Dieu à nous. Et une nouvelle présence de Dieu à l'homme à travers l'incarnation. La présence est une relation qui dépend de votre activité. Vous êtes présent à quelqu'un dans la mesure où vous agissez sur lui. Si vous êtes dans le bus, vous n'êtes pas présent aux personnes qui sont à côté de vous, sauf au moment où elles vous marchent sur le pied. Au moment où elles vous marchent sur le pied, tout d'un coup, elles vous deviennent présentes. Et vous aussi. Donc la présence dépend de l'activité. Et suivant la qualité de l'activité, vous avez une qualité de présence différente. Et la présence la plus forte, c'est la présence amicale de deux amis, de deux personnes qui s'aiment, et dans la mesure où chaque personne se donne à l'autre. Le don de la personne étant l'activité la plus parfaite et réalisant la présence la plus forte et la plus aimante. Or, l'enfant Jésus est donné à Marie, qui fait qu'il lui est présent divinement. Hein, c'est pas une présence d'abord humaine, il y a une présence humaine, c'est une présence d'abord divine dans sa foi. Et c'est ça qui domine durant le temps de l'Avent et que Marie doit apprendre à vivre. Et Marie est seule à vivre ce mystère. Joseph le vit par elle, Élisabeth le vit par elle, et c'est un mystère qui est réservé à Marie. Et j'allais dire, l'aspect officiel, entre guillemets, l'église officielle est très loin, des docteurs de la loi, la réalisation de l'incarnation leur échappe complètement, et ils n'en vivent que comme une prophétie, alors que le mystère est là, la réalité est là. Le mystère est présent et caché. Ce qui est impressionnant, c'est que devant ce si grand mystère de l'incarnation, très peu en vivent. Et c'est pour nous difficile d'accepter cela, que très peu vivent de ce mystère, si grand, si caché. C'est difficile pour nous parce que pour nous, tout doit être dit, manifesté sur tous les grands événements. Rappelez-vous la parole de Marthe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et donc, il y a des choses très grandes qui ne sont pas forcément manifestées immédiatement, dites. Mais Dieu, dans son gouvernement, a voulu que le Verbe, le Fils de Dieu, s'incarne en Marie, et que ça se fasse de cette manière si cachée, si discrète, qui fait que ça échappe à la plupart des hommes. Et il fallait, par la sagesse de Dieu, qu'on garde le silence. Pourquoi ? Parce que le Père voulait que ce mystère se réalise pleinement comme il le voulait, c'est-à-dire qu'il a voulu que l'incarnation se réalise en vue de la croix. Et pour qu'il y ait la croix, pour qu'elle puisse exister, il a fallu d'abord tout ce temps caché, secret. Il pouvait pour Marie comme un scandale, hein, que le Père veuille ce silence pour ce don unique du Fils à l'humanité, si bien que l'humanité n'est pas au courant. Et elle doit accepter ce silence dont elle est responsable. On verra, il y a des choses dans cette conduite de Dieu durant l'Avent qui sont mystérieuses. Cet édit de César qui oblige Marie et Joseph de prendre la route, très agréable pour une mère attendant son enfant. Et en même temps, c'est une très grande lumière parce que par là, Marie est obligée d'aller à Bethléem, j'allais dire pour la réalisation des prophéties. Bethléem, le lieu de la terre de David. Et donc, nous devons, durant ce temps d'avant, apprendre auprès de Marie, porter à vivre cette présence pour que nous les rendons notre foi puisse être pleinement elle-même. Et tout est ordonné dans cette conduite de l'avant de Marie à cette réalisation secrète et à cette solitude. Dieu a voulu cette solitude de Marie et de Joseph pour que l'on verra l'amour aille jusqu'au bout. Et qu'en même temps, il est rude à porter, parce que Joseph avait une responsabilité unique, et donc c'était très rude à porter. Mais en même temps, cette solitude était merveilleuse pour Marie, parce qu'elle pouvait être seule, prise par ce mystère, seule avec son fils, pour que, j'allais dire, il soit tout à elle et qu'elle soit tout à lui. Ça, c'est un signe de la sollicitude du Père pour Marie. C'est pour Marie que le Père réalise cette solitude aussi, pour qu'elle soit uniquement à ce mystère et que ce mystère soit tout à elle. En même temps, ça nous rappelle, dans ce caractère très personnel, vous voyez, l'Avent, c'est d'abord un mystère personnel, avant d'être un mystère pour toute l'humanité. Et cette pauvreté de ce temps caché de Bethléem, nous rappelle, et toute la manière dont ce vécu avant nous rappelle que nous sommes de passage sur cette terre. Et que la grande spiritualité de l'avant, c'est de ne pas s'installer. Parce que si on s'installe, on perd cette richesse contemplative du silence et de la présence. Je crois qu'on doit demander pendant le temps de l'avant d'être désinstallé par Dieu. Et beaucoup de lieux où on s'installe sur cette terre, alors que nous sommes faits pour la vie éternelle, ça ne veut pas dire qu'on ne s'investit pas, mais intérieurement, on doit être libre, on ne doit pas s'installer sur cette terre. Et c'est très grand de comprendre on verra ce regard de Marie, cette contemplation de Marie, et ce réalisme de la conduite de Dieu sur Marie. Et c'est ce bon plaisir du Père sur elle, sur Marie, sur Joseph, qui creuse dans le cœur de Marie et de Joseph une extrême pauvreté, d'abord intérieure, spirituelle, mais aussi par rapport au bien temporel, ce qu'on sent du strict nécessaire pour vivre une contemplation plus pure. Quand Dieu nous appauvrit, c'est pour que notre foi soit plus divine et qu'elle soit moins humaine. Parce que la foi n'est pas humaine, elle est divine. Et malheureusement, nous l'humanisons. Et ce temps d'avant, comme vous allez le voir, fait découvrir la sagesse du gouvernement divin, qui, selon les apparences, apparaît souverainement imprudent. Et faire cette incarnation alors qu'elle est dite César, mettre Joseph alors que Joseph n'est pas le père premier, le père putatif, je n'ai pas beaucoup cette expression, il y a une vraie paternité, mais c'est Dieu qui est radicalement père de son fils. Tout cela, humainement, c'est très imprudent. Tout ça, c'est normal. Et donc la sagesse de Dieu se manifeste à travers des apparences souverainement imprudentes. C'est aussi quelquefois souvent comme ça dans notre vie. Et ça nous empêche de juger cette sagesse selon la prudence humaine. Dieu ne nous conduit pas selon la prudence humaine. Dieu nous conduit selon la sagesse divine, qui est au-delà de la prudence. Et donc c'est une conduite qui est toute différente du conduite humaine. Et Dieu a voulu que cet événement de l'incarnation, de l'avant, se réalise, qui est si important pour les hommes, se réalise de cette manière, c'est-à-dire enveloppé d'une très grande pauvreté, parce que, comme je vous disais, la pauvreté permet l'intensité de l'amour, qui est voilée par la simplicité. C'est très souvent les manques de pauvreté qui diminuent l'amour. Manque de pauvreté d'abord intérieure, parce qu'on met la main sur les choses de Dieu, ou sur les choses humaines, ou sur l'amour, ou sur ce qu'on aime, et à ce moment-là, l'amour diminue. Et vous voyez, ça appelle de chacun de nous un grand dépassement, mais aussi comprendre que nous sommes appelés à un regard plus divin, pour comprendre cette exigence propre de l'avant. Et j'allais dire, on comprend mieux le pourquoi de la pauvreté de l'avant, c'est pour que dire que tout soit offert à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de partage dans la gloire, c'est-à-dire que toute la gloire soit donnée à Dieu. Et que, vous voyez, c'est ce qu'on dit à la fin de la messe, par lui, avec lui, tout honneur et toute gloire. Et pour que le mystère de Noël soit entièrement pour glorifier le Père et Jésus, et non pas nous. C'est pour ça qu'il y a cette pauvreté. Et Dieu se fait en même temps dans cette pauvreté si proche de l'homme, parce qu'il se fait mendiant et pauvre, et mendiant du cœur de l'homme. Et Marie l'a vécu dans une contemplation unique, comprenant la fragilité de cet enfant, qui, j'allais dire, c'est la fragilité de Dieu pour elle. Dieu a voulu qu'elle ait cette dépendance par rapport à Marie, absolument unique, comme il veut vivre cette même dépendance à notre égard. Le temps de l'Avent est un temps de profond renouveau. Et ça doit être pour nous une grâce de renouveau radical. Et nous devons demander que durant ce temps de l'Avent, il y ait ce renouveau de notre cœur, puisque j'allais dire, le soleil levant, c'est Noël, et l'aurore, c'est l'Avent. Et tout est repris radicalement dans une nouveauté, et c'est la grâce de l'avant. Et la grâce de l'avant n'est pas la grâce du carême. La grâce du carême, c'est une grâce de purification, c'est une grâce de reconnaissance de la pauvreté, c'est une grâce de miséricorde, de pardon. La grâce de l'avant, c'est beaucoup plus le temps de reprise dans une nouveauté radicale auprès de Marie. Et c'est ce que vous demandez. C'est un temps de rajeunissement divin. Nous devons demander à Marie que cet avant nous rajeunisse parce que nous sommes vieux spirituellement dans bien des domaines. Mais il faut que le temps d'avant nous rajeunisse et il faut demander à Marie qu'elle nous montre là où la grâce veut nous reprendre et où nous résistons pour qu'il y ait une vraie jeunesse divine qui implique des grands désirs, comme vous disiez au début de la messe. Le propre de la jeunesse, c'est que les jeunes ont de grands désirs. Quand on n'a plus de désir, on est vieux spirituellement. On est blasé, on a tout vu, tout vécu, tout connu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ça, c'est quand on est vieux spirituellement. Alors, la vieille spirituelle, la jeunesse spirituelle, c'est pas une question d'âge. C'est des gens qui ont 90 ans, qui sont plus jeunes spirituellement que des gens de 20 ans, ou des jeunes de 20 ans, qui sont complètement blasés par le monde d'aujourd'hui. Et donc on doit demander ce rajeunissement divin. Comment Marie a vécu au sein de cette contemplation et au sein de cette pauvreté, c'est une de ces grandes étapes de l'Avent. Les grandes étapes de l'Avent, vous les connaissez, c'est l'Annonciation, la Visitation, avec la Visitation, le Magnificat, les retrouvailles avec Joseph après le temps de visitation auprès d'Élisabeth, et puis l'édit de César, et puis la naissance de Bethléem. Si on regarde l'Annonciation, ce texte magnifique, le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et tout est centré sur le mystère de Marie. La Galilée est centrée sur Nazareth, Nazareth est centrée sur Marie. Mais vous voyez, une vierge est au sens de consacrée à Dieu. Marie s'est consacrée, c'est comme vous faites en 21 ans. Fiancée à un homme du nom de Joseph, donc tout est compliqué. Hein. Il entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Comprenons. Oui, c'est plus qu'entrer dans la maison. C'est que l'ange, en tant qu'envoyé par Dieu, pénètre dans l'intimité de Marie. Dans l'intimité de son cœur. Cette intimité lui est cachée, elle est réservée à Marie et à son Dieu, mais Dieu peut lui faire entrer s'il le veut. Et Dieu a voulu envoyer l'ange Gabriel, qui pénètre dans cette intimité, dans le cœur de Marie, et il se trouve en face de celle qui a une sainteté qui le dépasse complètement. La sainteté de Marie, tel point de départ, dépasse toute la sainteté des élus et des anges. Or, par la sainteté, il y a un reflet du mystère de Dieu. Et donc, l'ange se trouve devant la sainte qui le dépasse infiniment, qui reflète quelque chose du mystère de Dieu plus que ce qu'il reflète lui. Et c'est pour ça qu'il y a cette admiration. Alors, réjouis-toi, il faudrait mieux dire je vous salue. Parce que ça, c'est les mœurs d'aujourd'hui, on est très subjectif. Alors, réjouis-toi. Je veux bien vous dire réjouis-toi, mais c'est pas la même chose que je vous salue. Parce que réjouis-toi, c'est subjectif. Je vous salue la grandeur de l'autre, la dignité de l'autre. Comme disait un fondateur, il disait, j'ai compris l'expression je vous salue quand j'ai rencontré, lorsqu'il était en Suisse, qui enseignait à Fribourg, qui rencontrait des Asiatiques. Parce que nous, quand on rencontre quelqu'un, on fait salut, salut, puis on passe, vous voyez. Et quand il rencontrait des Asiatiques, il s'arrêtait, il s'inclinait, il disait je vous salue. Saluer, c'est laisser l'autre passer devant. Ce que dit pas du tout, réjouis-toi. Donc quand l'ange dit je te salue, l'ange s'incline et laisse Marie passer devant. Parce qu'il a saisi en elle quelque chose d'absolument unique qui fait son admiration, grâce au tien. Et comblé de grâce. Là encore, il faudrait mieux dire pleine de grâce. Excusez-moi, c'est des précisions importantes. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être comblé sans que ce qui vous soit donné soit parfait. Au bout de quelque chose d'imparfait, ça remplit tout votre récipient d'être comblé. Tandis quand vous dites pleine, ça veut dire qu'elle a une grâce plénière, il n'y a pas de grâce plus parfaite. Et elle en est pleine. Donc c'est objectif et subjectif. C'est pas la même chose. Pleine de grâce et comblé de grâce, c'est pas la même chose. Marie reçoit une grâce qui est plénière, c'est-à-dire qu'avec le mystère de l'incarnation, c'est la grâce la plus parfaite, non seulement qui a existé, mais qui puisse exister. Vous ne pouvez pas concevoir de grâce plus parfaite que la grâce de l'incarnation. Ça ne peut pas exister. Et c'est plus fort que Kundé. Pleine de grâce. La grâce, elle est plénière. Il ne peut pas y en avoir une grâce plus parfaite. Et en même temps, elle en est pleine, subjectivement. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, toute troublée. Et elle se demandait ce que signifie cette salutation. Marie a très bien compris que l'ange la faisait passer devant. Et elle ne comprend pas. Parce que dans sa pauvreté, elle ne se regarde pas. Le propre de Marie, c'est qu'elle ne s'est jamais regardée. et qu'on voit pourquoi l'ange le laisse passer devant. Et en même temps, très curieux, parce que elle n'est pas troublée par la présence d'un ange. Elle est la reine des anges, quand même. Elle n'est pas troublée par la présence d'un ange. Mais ce qui la trouble, c'est que l'ange la fait passer devant. Elle qui ne connaît que sa pauvreté créature. Et donc, elle se demandait ce que signifie cette salutation. Et l'ange la rassure. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est magnifique. Parce qu'il la rassure en la renvoyant à son lien avec Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et il lui révèle, voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. L'ange lui révèle que Dieu a un fils. Première révélation explicite, et c'est donné à Marie. Et Marie n'est pas troublée par cette révélation, et qui est quand même quelque chose d'absolument unique. Et Marie, tout de suite, adhère à la parole de l'ange. C'est important parce que, vous voyez, le mystère de la foi fait que nous adhérons au mystère qui nous est révélé et nous y adhérons à travers la parole. C'est très important pour notre vie de foi. Et Marie a une adhésion plénière de tout petit enfant. C'est pour ça qu'elle dira, je ne sais pas tout le texte, hein, je suis un servant du Seigneur qui m'a bien selon ta parole. Vous voyez, l'adhésion de foi peut prendre des modalités diverses. Il y a la foi du tout petit enfant qui fait une confiance plénière à ce qui lui est dit, c'est propre de l'enfant, qui fait confiance à sa mère. L'adhésion plénière, sans discuter, sans essayer de raisonner. Vous avez l'adhésion de foi du serviteur à qui il est demandé une tâche, qui fait confiance, qui fait un acte de foi dans ce que le maître du monde, mais comme c'est lié avec une mission, un service, alors ici nous sommes au-delà, eh bien, même s'il va y avoir le service de la maternité, eh bien, on peut demander, il peut demander un signe. Vous savez, quand, dans l'Écriture, quand Dieu veut envoyer Gédéon pour combattre, et comme c'est une mission, Gédéon veut être sûr que ça vient de Dieu, et donc il demande un signe. Un signe de géant, c'est qu'il met une petite oiseau sur le sol et dit demain que tout le sol soit mouillé et que la toison soit sèche. Et le lendemain, tout le sol est mouillé et la toison est sèche. Alors, comme il est un peu sceptique, il dit ben, le jour suivant, l'inverse. La toison mouillée et tout le sol sèche. Et le lendemain, la toison mouillée et tout le sol est sèche. Très important. Vous avez aussi Moïse par rapport à Pharaon, quand il demande la mission d'aller libérer le peuple d'Israël, il demande un signe. Les signes, les serpents, etc. Les bâtons par son amour. C'est toute la question de notre vie, quand est-ce qu'on a le droit de demander des signes à Dieu? Vous n'avez pas le droit de demander des signes pour savoir quelle est votre grâce actuelle, comment vous vivez, ça vous devez dans la foi. Vous avez le droit de demander des signes si Dieu vous demande une mission, un service particulier. Là, vous demandez un signe, est-ce que c'est vraiment ce que tu me demandes? Très important dans notre vie. On n'a pas demandé de signes pour savoir où on en est, comment on a vu spirituel et tout ça, c'est un monde de foi. Et puis vous avez une troisième adhésion, qui est l'adhésion du disciple, hein, et le disciple qui doit former, enseigner, et donc qui a le droit de demander des motifs de crédibilité de ce qu'il lui est donné. Mais il y a différents types d'adhésion de foi. Et la foi de Marie dans la session, c'est la foi du tout petit enfant, qui fait une confiance totale à la parole qui lui est dite, au-delà de ce qu'elle comprend. C'est très important parce que nous adhérons au mystère et notre foi nous fait vivre du mystère et à travers la médiation de la parole de Dieu, toujours. Vous voyez, même quand vous êtes devant l'Eucharistie et que vous dites « Je crois que Jésus, le Fils de Dieu, il est là », vous faites un acte de foi sur la présence eucharistique, mais vous la faites à travers l'affirmation « Jésus, je suis le Fils de Dieu ». Et donc vous dites, je crois que tu es le Fils de Dieu. Pourquoi vous le croyez? Parce que Jésus l'a dit. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie, il faut faire la différence entre le mystère de Jésus, pain de vie, sa personne, et la parole, je suis le pain de vie. Mais vous vous servez de la parole, Jésus qui dit, je suis le pain de vie, pour adhérer au mystère de la personne de Jésus, pain de vie. Et c'est des petites distinctions qui sont très importantes. Notre foi ne s'arrête pas à la parole de Dieu. Notre foi utilise la médiation de la parole de Dieu pour adhérer au mystère auquel la parole de Dieu est relative. Très important. C'est pas pareil quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu » et le mystère de la personne de Jésus, Fils de Dieu. Vous comprenez que la personne et la parole, c'est pas pareil, même si c'est un lien. Mais on sert toujours la parole. Quand vous faites des actes de foi, quand vous priez, quand on prie, on veut faire des actes de foi, Jésus, je crois que tu es là. Tu peux s'appuyer sur la présence eucharistique qui nous aide. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mon sauveur. Mais vous appuyez toujours sur les paroles de Dieu. Je crois que tu m'as donné Marie comme mère. Je crois en ta miséricorde infinie. Et on prie dans des actes de foi volontaires, des actes d'espérance. Jésus, j'ai toute confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Mais des actes d'amour. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je veux recevoir ton amour. Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Eh bien, c'est toujours, toujours à travers la parole. Et Marie adhère à la parole de l'ange qui lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un fils, et que ce fils est le Fils du Très-Haut, et que l'Esprit Saint viendra sur elle. Et Marie adhère à cette parole sans respect à la compréhension humaine. C'est pour ça que Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Marie ne dit pas « Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. » Si Marie avait reçu la parole en restant à ce qu'elle comprend de cette parole, elle aurait dit « Je suis la mère de Dieu, j'accepte d'être la mère de Dieu. » Elle ne dit pas ça. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Selon ce que signifie ta parole au-delà de ce que je comprends. C'est capital pour la qualité de notre foi. Hein. On n'adhère pas à la parole en fonction de ce qu'on comprend de cette parole. On adhère à la parole de Dieu en fonction de ce qu'elle signifie pour Dieu. Et donc c'est une signification divine qui dépasse complètement la signification humaine. C'est très important parce que nous faisons souvent l'erreur. Quand l'évangile vous est donné, on dit « Ah, je connais, j'ai compris, je connais l'évangile. » Mais non, à chaque fois l'évangile vous est donné d'une manière nouvelle, et l'évangile, quand l'évangile, ils ont tout passé de la parole de Dieu, a une signification divine, c'est-à-dire celle que Dieu veut donner à cette parole, qui dépasse tout ce qu'on comprend. Alors nous, très souvent, on adhère en disant « je comprends, donc c'est ce que je crois, ça ». Pas du tout. Je crois parce que Dieu me parle, et je veux adhérer à cette parole selon ce que Dieu veut me dire, et non pas ce que je comprends de cette parole. Marie donne l'exemple. « Qu'il m'advienne selon ta parole. » Elle ne dit pas « j'accepte d'être bien de Dieu. » Et Saint Bernard dit cette chose magnifique, c'est que, avant qu'elle dise Fiat, elle dit, Saint Bernard dit, le monde entier, Marie, attend ta réponse. Il y a un passage de prière de Saint Bernard magnifique, qui dit ça, toute cette prière, c'est, il montre l'attente du monde entier, qui attend que Marie dise Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie entre à ce moment-là, dans une foi, qui a une dimension nouvelle, qui est la foi contemplative. Je crois que c'est très important parce que nous avons divers exercices de la foi. Vous avez d'abord la foi qui s'exerce de manière communautaire. À la messe, comme on dit le credo, nous exerçons la foi. C'est pour ça que quand on dit le credo, je crois en Dieu, il faut en même temps adhérer dans la foi à chacune des affirmations du credo. C'est une foi communautaire. Proclamer, on dit communautairement ce que la communauté de chrétiens croit. Ça, c'est normal. Quand on prie ensemble, c'est pareil. Vous avez un autre exercice de la foi, c'est la foi, il y a la charité, bien sûr, qui s'exerce dans les œuvres. Quand vous faites une œuvre de charité, votre foi s'exerce. Vous sortez de l'église, il y a un pauvre qui vous tend la main, vous lui donnez une piécette parce que vous posez un acte de foi. Ce pauvre, c'est Jésus qui vous met sous ma route et qui, tout ce que vous avez fait, c'est un petit geste que je fais pour Jésus. Donc c'est notre foi, elle s'exerce très bien humain. Quand vous faites une œuvre caritative, que vous vous occupez de personne, etc., vous posez un acte de foi. Jésus qui me met cette personne sur ma route. Et à travers ce que je fais à cette personne, c'est Jésus qui le reçoit. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis vous avez une autre dimension de la foi, un autre exercice de la foi, qui est la dimension la plus première, la plus profonde, qui est ce qu'on appelle la foi contemplative. C'est-à-dire la foi et la charité qui vit de l'intime, de l'intérieur, dans l'intimité du mystère de Dieu. C'est-à-dire, c'est la foi qui vit des secrets. Et cette foi, elle est personnelle. Elle n'est pas communautaire. Elle n'est pas dans une œuvre concrète. Elle est d'une manière intérieure, notre foi qui vit de la manière la plus aimante, la plus intime du mystère de Dieu. Et notre foi devient contemplative que si elle est porteuse de secrets. Qu'est-ce que c'est que le secret ? C'est important de bien voir parce que malheureusement nous n'avons pas toute la signification souvent de ce que c'est qu'un secret. Le secret, c'est pas d'abord des paroles qu'on ne dit pas, c'est pas ça un secret. Le secret dans l'ordre de l'amour, c'est d'abord la présence en nous de la personne qu'on aime et qui se donne à nous. Vous savez, c'est comme ça qu'une mère de famille comprend que sa fille, qui est bavarde comme une pie, devient amoureuse. Tout d'un coup, elle devient silencieuse. Donc, comme elle connaît sa fille qui bavarde comme une pie, elle lui dit « Je vois que tu aimes quelqu'un. » Elle ne voit, voit rien du tout. Et elle fait un petit raisonnement très juste. La fille devient silencieuse, comme elle a l'expérience donc qu'elle porte un secret de quelqu'un qu'elle aime, donc elle aime quelqu'un. Bien sûr, très juste. Quand vous aimez quelqu'un profondément, et que c'est réciproque, et que vous avez dit à la personne que vous l'aimez réciproquement, tout d'un coup cette personne devient présente en vous, d'une présence spirituelle qu'on appelle le secret. Le secret, ce n'est pas d'abord des mots qu'on ne dit pas, c'est la présence de quelqu'un qu'on aime, qui est présent en vous. C'est très important parce que ça, ce qui fait que la personne que vous aimez, vous l'aimez, à la fois c'est la personne que vous aimez, vous venez vous l'aimer, à travers sa présence intérieure. Et à travers cette présence intérieure, vous touchez dans la personne quelque chose de plus profond. Elle dans son plus profond. C'est une grande chose humaine, le secret. Alors, à partir de cette présence, ce que la personne vous dit comme ami devient des vraies paroles secrètes. Comme ami. Supposez que la personne que vous aimez est présentateur du journal télévisé de 20h. Ce que cette personne dit dans le journal n'est pas un secret, ce que la personne vous dit à tout le monde. Mais ce qu'elle vous dit dans la confidence, dans l'intimité, c'est le secret. Et vous n'avez pas le droit de dire. Il n'y a pas que le secret de la confession. Il y a un secret naturel. Vous n'avez pas le droit de dire. Si vous le dites, c'est ce qu'on appelle une trahison. La trahison, c'est livrer les secrets. Marc avait un mot un peu sévère par rapport aux journalistes, vous voulez tout savoir. Et ce sont des arracheurs de secrets. Faisons attention aux mots transparence. Très à la mode aujourd'hui. Transparence, on dit tout, c'est faux. Ce qui relève du secret, et le secret des liens personnels, vous n'avez pas à le dire. Et si la personne vous interroge, vous n'avez pas à vous répondre. C'est très important ça, on perd ce sens-là. Or, quand on lit les secrets, on perd le secret, et puis on est beaucoup affaibli. C'est ce que disaient les récits de ceux qui ont été pendant la guerre, qui ont été torturés pour faire de la résistance, qui ont été torturés. Ils disaient tant qu'ils ne livraient pas les secrets, ils avaient une force. Au moment où ils livraient les secrets, ils perdaient toute leur force. Donc c'est très vrai ça. Quand vous portez des secrets profonds, vous avez une force intérieure. Quand vous n'avez pas de secret, vous n'avez aucune force intérieure. Et là, vous êtes manipulable comme vous voulez. C'est important de retrouver ce sens du secret lié à la présence. Et à partir du secret, vous avez le silence. Et le Père Lassava a écrit un livre magnifique, là, La force du secret. J'aurais aimé qu'il dise une chose, non, il ne le dit pas, enfin, il le dit peut-être de manière diffuse, mais il ne le dit pas assez. Le silence est lié au secret. Et plus vous avez en nous des zones de silence de plus en plus profondes, dans la mesure où nous avons des secrets de plus en plus profonds. Le silence intérieur vient de ce que vous vivez du présent intérieur. Vous voyez, ce n'est pas négatif le silence. Oui, vous avez le silence extérieur, écoutez un peu, ascétique. On vous dit pendant cette journée, ne parlez pas. Mais ce n'est pas la finalité. C'est un moyen pour que vous viviez plus pendant cette journée de la présence intérieure. Et il y a une nouvelle présence intérieure pour nous pendant l'Avent. Jésus, dans la foi, c'est sûr, c'est pas humainement. Tu peux t'aider qu'on l'expérimente sous le sous plutôt de sagesse, mais normalement c'est dans la foi. Et c'est très important. Plus on vit le secret profond, vous avez le secret de la présence de Jésus. Sa parole de Dieu peut être vécue comme un secret. On vit à ce moment-là la signification de la parole de l'intérieur, de manière beaucoup plus profonde. Vous voyez ? Et plus les présences en nous sont profondes, plus se fait en nous des silences profonds. On devient silencieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas quand il faut parler. Et quand on n'a pas parlé, on vit une présence intérieure. Et Marie est entrée dans un silence nouveau parce qu'elle est entrée dans cette présence nouvelle de Dieu au cœur de l'homme et à son cœur à travers le mystère de l'enfant Jésus. Puisque je vous disais, à travers l'enfant Jésus, il y a une nouvelle présence de Dieu à l'homme. Et c'est une présence de l'enfant Jésus à Marie, elle est tout intérieure, où on est, dans son sein. Et donc sa foi connaît à ce moment-là, sa foi aimante, connaît un nouveau silence. Et elle devient, à travers le silence, la foi devient un regard. C'est-à-dire que c'est plus la parole, mais c'est plus, au-delà de la parole, un regard intérieur. Vous savez, cet homme qui priait dans l'église du curé d'Ars, ce paysan là, qui restait des heures devant le tabernacle, caché derrière l'autel, puis le curé d'Ars le découvre, un peu intrigué, il dit cet homme-là est dans le tabernacle, puis je ne vois pas ses lèvres bouger, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il a l'air de prier, c'est impressionnant, il dit qu'est-ce que tu fais? Et le paysan qui lui dit je la vise et il m'avise. C'est magnifique ça. Cette prière intérieure, c'est nous. Je m'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. Quand j'enseigne, il se regarde, il n'y a pas de problème. Et il faut découvrir ça dans la foi. C'est pas humain, c'est divin. Mais c'est très important ça. Parce que Marie est entrée dans un nouveau regard intérieur sur son Dieu à travers le mystère du Fils incarné. Et le secret qu'elle porte en elle, c'est non seulement son secret, c'est-à-dire Dieu présent en elle, mais celui qui lui est donné, c'est le Verbe incarné. Vous voyez, quand on regarde le mystère de la deuxième personne à la très sainte Trinité, on dit qu'il est le Fils, on nous dit qu'il est le Verbe, et Saint Jean ajoutera qu'il est le pain. Quand on dit qu'il est le Verbe, on veut dire qu'il est le fruit de la contemplation du Père. Non seulement le Père engendre la deuxième personne, qui à ce moment-là son fils, mais le Père en se contemplant a un fruit, qui est ce qu'on appelle le Verbe, on pourrait dire le secret. Parce que c'est une connaissance aimante, affective. Et donc le secret de la foi de Marie, c'est le secret même du Père. C'est bouleversant. C'est le même secret. Et notre foi fait que nous vivons le même mystère que le Père vit de toute éternité. C'est bouleversant de voir que Dieu était jusque-là. C'est le même secret. Et donc, comme c'est un secret infini, Marie entre dans un secret, il y a quelque chose d'infini. Et ce qui est important, c'est que Marie a vécu le mystère de l'incarnation, et comme dit saint Augustin, elle a conçu dans sa foi avant de concevoir dans sa chair. La maternité de Marie, ce n'est pas premièrement une maternité humaine, c'est une maternité divine, c'est-à-dire une maternité dans la foi. Elle est mère dans sa foi. Et ça s'incarne dans une maternité humaine selon la chair et le sang. Et le mystère, ce n'est pas la maternité humaine. Le mystère, c'est la maternité divine. Et Marie a gardé le secret de cette maternité divine, seule au milieu de son peuple, sachant que toute l'attente de l'ancienne alliance s'achevait en elle, et que tout touchait son terme. C'est important pour nous parce que, vous voyez, le temps de l'Avent est un temps où nous devons entrer beaucoup plus profondément dans la foi contemplative. Donc de vivre intimement la présence de Dieu, de vivre intimement la parole de Dieu, de vivre silencieusement du mystère de Dieu. C'est une exigence de l'Avent. Alors c'est sûr que ça nous dépasse tous, surtout qu'on est dans un monde de bruit. L'expression du Kanasara est très juste, la dictature du bruit. Aujourd'hui, c'est la dictature du bruit. Et donc, on veut trouver des moments et des lieux où on peut vivre plus cette intériorité. Notre foi nous fait vivre intérieurement les mystères de Dieu. Le temps passe vite, donc je vais aller rapidement sur les autres mystères, la visitation. La visitation nous révèle que le mystère de cette foi contemplative ne nous coupe pas des autres. Et l'ange indique à l'Annonciation à Marie, sa cousine Élisabeth vient d'enfanter. Et donc, Marie connaît à ce moment-là un mystère de charité fraternelle. Elle va auprès d'Élisabeth, une charité fraternelle s'incarnant dans le service concret. Vous voyez, la foi, elle monte de l'avant, mais aussi être un moment où Dieu nous suscite des initiatives, où nous fait comprendre qu'il y a des initiatives de charité fraternelle à avoir auprès de ceux que Dieu a mis proche de nous. S'incarnant dans un service très concret, comme Marie était auprès d'Élisabeth, elle a fait la cuisine, elle a fait tout très concret. Donc vous voyez, le secret de la foi contemplative nous pousse au don de nous-mêmes à l'égard du prochain. Et Marie et Dieu répondent à cet acte de charité fraternelle qu'elle fait sous le sceau de l'Esprit Saint à travers la réponse d'Élisabeth. La réponse d'Élisabeth: comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Bénie es-tu entre les femmes, béni est le fruit de ton sein. Marie a vécu dans la foi sa maternité. Eh bien, Dieu lui confirme par Élisabeth son plénitude d'un nouveau. Pour Marie, c'était une joie prodigieuse. C'était une confirmation qu'elle était vraiment mère de Dieu. Comment se fait-il qu'elle vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur? Marie est dans la foi, donc quand on est dans la foi, vous n'êtes jamais parfait, monsieur, vous avez une certitude intérieure, mais c'est l'obscurité de la foi. Et là, Élisabeth, de la part de Dieu, une lumière qui est comme une récompense et une réponse de Dieu à cet acte de charité fraternelle. Et l'unité de la contemplation et de la charité fraternelle qui caractérise la vie chrétienne, eh bien, a comme fruit le Magnificat. Et dans cette prière liturgique maternelle, le Magnificat, c'est typiquement la prière chrétienne de ces deux mères unies auprès de l'enfant Jésus. Et donc, ça va être un temps, vous voyez, où il y a cette prière liturgique légère, allégée, joyeuse, vous voyez. Temps d'avant, il y a un temps très, grande joie, puisque c'est un temps de renouveau, c'est un temps d'amour, c'est un temps de doux. On doit demander d'avoir cette joie qui renouvelle notre cœur. Notre cœur a besoin, notre esprit a besoin de la joie. On cherche l'amour plus que la joie. Et à un certain moment, il y a besoin de la joie pour s'ouvrir entièrement. Et c'est dans la mesure où nous vivons les joies que Dieu nous donne, qu'on pourra vivre des épreuves que Dieu pourra nous donner. Et suite au Magnificat, il y a dans l'évangile de Saint Matthieu, je crois que c'était l'évangile de Saint Luc, Marie qui revient de chez Élisabeth. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils eussent mené vue commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans mourir. Alors qu'il avait formé ce dessein, l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur Aussi que la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel. Joseph voit Marie revenir enceinte, et Joseph n'a pas douté une minute de la fidélité de Marie. Et Joseph a été éclairé à ce moment-là par cette prophétie. C'est pour ça qu'elle nous est donnée dans cet évangile de Matthieu, cette prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Il n'est pas dit, voici que la Vierge, fiancée à Joseph, concevra et enfantera un fils. Pourtant, elle l'est. Et donc Joseph, recevant cette parole qui vient l'éclairer sur ce qu'il découvre auprès de Marie, comprend qu'il doit s'effacer, que Dieu lui demande de s'effacer. Et c'est pour ça, quand il est dit qu'il décida de la répudier, c'est pas qu'il avait un doute. Il devait, sur la tradition, comprendre qu'il devait s'effacer. Au fond, Joseph a considéré qu'il avait vu trop grand. Joseph, quand il était fiancé à Marie, avait saisi, non pas qu'elle était immaculée, c'est évident, il avait saisi la grandeur de Marie, elle avait saisi quelque chose, sa proximité avec Dieu. Et là, éclairé par cette parole, il comprend que il doit s'effacer de manière qu'il a vu trop grand. Et c'est la pauvreté de Joseph, l'humilité de Joseph, qui accepte de s'effacer. Et au moment où il s'efface, l'ange apparaît. Tu as attendu cet acte d'humilité, d'effacement, et l'ange apparaît et lui redonne Marie. Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre Marie chez toi, ton épouse. Magnifique ça. Quand on accepte des appauvrissements, Dieu nous rend son duple. Et Dieu lui rend Marie, mais d'une nouvelle manière. Parce que la première fois, quand il lui a donné mon fiançaille, c'était Marie de donner à Jésus, à son père. Ce n'était pas encore la mère de Dieu. Tandis que là, il lui donne la mère. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, parce qu'elle était engendrée d'elle, vient l'Esprit Saint. Il lui donne la mère de Dieu. Et donc, il y a un nouveau choix de Marie. Vous voyez, il y a deux choix de Joseph sur Marie. Le choix au moment où il a choisi comme fiancé, et ce nouveau choix à partir de l'apparition de l'ange, la venue de l'ange, qui est le choix de Marie comme mère de Dieu. Et il le fait en choisissant Marie à partir de la parole de l'ange. Donc c'est plus un choix. Alors, le premier choix est un choix humain, offert à Dieu, mais c'est un choix humain. Tandis que le deuxième choix se fait en s'appuyant sur la parole de l'ange, et donc c'est un choix de foi divin, s'incarnant dans un choix humain. C'est beaucoup plus grand. Et comme Dieu nous fait choisir quelqu'un divinement dans sa carrière humain, c'est beaucoup plus grand que nous avons choisi uniquement humain. Et à partir de là, vous voyez, il y a dû avoir une joie prodigieuse dans le cœur de Joseph. On verra ça au ciel. Et ensuite, je termine par là, évidemment, c'est un peu trop rapide, mais je crois que c'est une des grandes étapes de ce temps de l'avant, dans cette première partie. Quand il y a l'édit de César, où il est demandé à César qui tombe, entre guillemets, providentiellement, au moment où c'était le moins facile pour Marie-Joseph. Dieu voulait que ça soit à ce moment-là. Providentiellement, on ne comprend pas très bien. On s'est arrangé pour que ça tombe à un autre moment. Pour que Marie-Joseph soit obligé de prendre la route. Eh bien non, Dieu a voulu que ce soit à ce moment-là. Il faut comprendre pourquoi. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il est dit, où, au fond, il advint ce jour-là que parmi un édit de César ordonnant le recensement. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, la ville de Nazareth, à la ville de David, qui montre qu'il était de la race de David, parce qu'il était de la maison d'Alié et David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où ils devaient enfanter. Oui. Le provient serait lui, c'est tout. Et donc, vous voyez, Dieu a voulu cette pauvreté. L'édit de César. Le temps d'avance, c'est aussi pour nous des temps d'édit de César. Des choses imprévues qui nous appauvrissent. Il faut être prêt à ça, pour que notre cœur soit appauvri. Et avec ça, il vit cette pauvreté de devoir aller. Et l'hôtellerie, on ne les reçoit pas, vous voyez, l'ingratitude des hommes. Mais Dieu l'a permis, et même plus que ça, Dieu l'a voulu, pour que le mystère de Noël se réalise à Bethléem, dans la grotte, d'une manière toute cachée, loin des regards des hommes. Si Marie avait enfanté à l'hôtellerie, les hommes auraient été témoins. Or, Dieu a voulu que ce soit loin de regard des hommes. Pourquoi ? Parce que la nativité de Marie est un mystère, la nativité de Jésus est un mystère. Et l'enfant Jésus est sorti du sein de Marie d'une manière miraculeuse. Marie a enfanté dans une extase d'amour, dans une contemplation d'amour. Et Dieu a voulu préserver le corps de Marie qui était virginal. Donc l'enfant Jésus n'est pas sorti du sein de Marie comme les autres enfants. Il est sorti à l'intérieur de la contemplation de Marie. Et vous comprenez qu'il ne fallait pas de témoin. Parce que c'était un mystère qui devait échapper aux hommes. Ce témoin, c'était Joseph, l'un des bœufs, c'était pas trop gênant. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était l'un des bœufs, oui. La tradition dit ça avec Saint-François, parce que la parole de Dieu dit que le bœuf, là, connaît son propriétaire, donc il dit un bœuf et un âne, on ne sait rien. Oh non, c'est très bien, voilà, pour notre petite piété d'avoir le bœuf et l'âne dans la crèche, tout le monde. Donc ils ont dit bon, le bœuf et l'âne, ils ont lu ça, ils n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas d'esprit, c'est pas grave. Donc le seul qui a quitté nos êtres. Et Dieu a voulu toutes ces circonstances de pauvreté pour que le mystère de Noël se réalise dans le plus grand secret, le plus grand silence et dans la plus grande discrétion. Vous voyez, les grandes œuvres de Dieu se font dans la plus grande discrétion. Et les hommes veulent que les grandes œuvres se fassent dans la plus grande manifestation. Autre les mœurs des hommes, autre les mœurs de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a voulu que la nativité se fasse dans ces circonstances-là. Je crois que c'est très important de relire pendant ce temps de l'Avent tous ces évangiles de l'Annonciation, de la Visitation, de la Magnificat, du retour de Marie dans Saint Matthieu, des dix Césars, pour que nous imprégnions de toute cette lumière qui doit éclairer notre Avent. Notre avant doit connaître cette mystique, cette dimension de la foi contemplative. Notre avant doit connaître ces actes de charité fraternelle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre avant doit connaître cette liturgie joyeuse, cette joie, chanter, de pouvoir chanter notre amour à Dieu. Notre avant doit connaître aussi cet édit César, c'est-à-dire ces appauvrissements à travers des circonstances venant de l'extérieur, du pouvoir civil ou de choses extérieures humaines, qui nous meurtrissent, mais qu'on doit vivre divinement, comme des moyens dont Dieu se sert pour nous appauvrir. Et la pauvreté est en vue d'un plus grand amour. Et l'amour grandit à travers une croissance de pauvreté, c'est-à-dire une pauvreté de plus en plus intérieure. De plus en plus profonde. Et Marie est celle qui a connu la plus grande pauvreté. Voilà. Donc, on vous retrouve cet après-midi. Là, pour ceux qui veulent, vous avez un temps de collation et qui encourage à ce que ce soit vraiment dans le silence pour que vous puissiez garder ce climat silencieux dans ces temps, dans les temps de rencontre, bien sûr, on ne va pas en prévu, mais nous ayons vraiment cette journée spirituelle qui nous essayons d'être le plus proche de Marie. Je vous invite à vous lever pour que nous prions ensemble les oreilles.
Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.